Je téléphone parce que j'aimerais bien savoir où on peut se procurer la pétition pour la défense du service public, hein, pour défendre les journalistes qui sont en grève. Voilà, voilà. Au revoir.
Oui, salut Daniel. C'est Romain de 7. Voilà, je m'étonne, je viens d'entendre le reportage de, enfin, le journal de Denis Tagnot qui titrait, qui ouvrait son journal sur la grève à France Inter, avec laquelle grève je suis totalement solidaire. Je pense que leurs revendications sont totalement justifiées. Mais je voudrais que tous ces journalistes, ces rédacteurs, enfin tout Radio France dans son ensemble, fassent une petite introspection sur la manière dont ils ont traité les conflits sociaux récents, il y en a eu, les intermittents, les enseignants, la RATP, etc. Alors c'est quand même étrange que moi en tant que prof, je me suis fait traiter de preneur d'otages, enfin nous sommes tous des preneurs d'otages, sauf les journalistes de France Inter qui mènent une lutte qui est tout à fait justifiée, qui est tout à fait légitime, voilà. Donc ouvrir le journal par des reportages qui ressemblent à des reportages qu'on entendait dans les années 70 avec un vrai contenu social, avec où les syndicats sont encore quelque chose d'important. Vraiment, il y a un écart insupportable avec la manière de traiter d'autres sujets, nous les sales preneurs d'otages.
Bonsoir. Journaliste de Radio France, tenez bon, de tout cœur avec vous. Ne lâchez pas. D'autant plus que votre grève est peut-être la dernière. Le gouvernement qui laisse pourrir la situation et fait tout pour dresser le public contre les grévistes rêve de faire passer ce droit à la trappe avec la sécu. Au fait, 5 millions de chômeurs, ça fait combien de rentrées en moins dans les caisses? Et toutes les conquêtes obtenues de haute lutte depuis 130 ans. Quand le MEDEF aura réalisé son rêve de revenir à la situation des années 80 et 90, 1800 bien évidemment, les Français seront redevenus tellement pauvres qu'ils n'achèteront plus rien. Alors, qui fera tourner la machine économique?
Bonjour, Raoul Varela, à Grenoble. Voilà ma question qui s'adresse à l'ensemble des journalistes de Radio France qui sont en grève. Selon un calcul de la CGT, l'ensemble des travailleurs du secteur public auraient perdu entre 20 et 25% de leur pouvoir d'achat depuis le début des années 80. Au-delà du secteur public, d'autres calculs font apparaître que la part des salaires dans le partage du PIB aurait baissé de 10 points depuis 20 ans au profit du capital. Pourtant, la grève des journalistes qui porte essentiellement sur des questions salariales ne concerne que 700 journalistes sur 4000 employés à Radio France. Serait-ce une grève corporatiste qui aurait du mal à porter son nom?
France Inter, 8h30 du matin, invité chez Paoli, la bombe socialiste. J'ai nommé François Hollande. J'ai 50 ans et pense être socialiste depuis un bon bout de temps. Le socialisme, c'est la révolution et l'utopie. Mais pour François, il est trop tôt. Il n'est pas réveillé, le politique. Il roupille à l'antenne avec des slogans ringards et sans envergure. Il est là pour nous convaincre, soi-disant. Super leader socialiste. Pour lui, Che Guevara doit être un fou furieux. Et non, il était socialiste. Puis, la prochaine fois, je vote nounours.
Moi, j'aurais bien voulu soutenir les journalistes de France Inter. Et comment fait-on, Daniel? Pouvez-vous nous renseigner? Parce que j'ai appelé ce matin sur le 7-9, puisque j'ai entendu qu'il y avait une pétition pour les soutenir, mais ils sont pas informés au standard pour nous dire et comment faire pour soutenir la pétition des journalistes. Donc voilà, si vous pouvez, laissez-nous le moyen de les soutenir.
Alors voilà, ben c'est www.20, le chiffre, 2-0-1-2-0-6, mais écrit. C'est pas très très facile à montrer à la radio, ça. www.26.fr. Mais le 26, c'est 1, 2, 1, 0 et S-I-X. Tout ça attaché. www.26.fr. Et là, vous trouvez des nouvelles de la grève des journalistes de l'information et la possibilité de signer la pétition. Nous, aujourd'hui, on continue l'histoire de Jean-Marie qui a recouvré la vue miraculeusement, mais pas miraculeusement, vous allez voir. Aujourd'hui, la suite de ce petit petit événement qui nous montre, ça vous a plu, c'est hier, hein, qu'on a un devenir, que rien n'est jamais tout à fait foutu. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Oui, bon, bonjour Daniel Mernet, c'est Nicole à Grenoble. J'appelle du parc Paul Mistral. Là, il y a les CRS de partout. Ils sont en train de poser des balustrades. Ça fait des mois qu'il y a des gens qui habitent dans des arbres pour empêcher qu'on les coupe. Voilà, c'est la démocratie de Michel Destot à Grenoble. Il y a des CRS de partout et ils encerclent les gens dans les arbres. Et nous, on est là nombreux, mais on peut rien faire contre leur force. Voilà la démocratie en France. J'espère que ce message sera diffusé dans toute la France.
Florian, je vous appelle, bonjour, en direct des arbres du parc Paul Mistral à Grenoble, qui sont occupés depuis 3 mois pour empêcher la construction d'un stade de foot et pour empêcher une logique d'urbanisme qui va à une destruction et à des mégapoles qui serviraient qu'une élite bourgeoise. Nous ne voulons pas de cette ville. Nous sommes réappropriés ce parc, nous avons construit des cabanes pour empêcher ce projet. Il y a 40 personnes qui occupent ces arbres depuis 3 mois et des centaines de personnes qui passent au sol de toute génération, de tous âges, pour nous soutenir. Aujourd'hui, à 6h15, sont arrivés une centaine de CRS, armés en Robocop, comme ils aiment bien à le faire. Ils ont commencé déjà à pousser tous les gens qui étaient au sol. Et ils commencent maintenant à essayer d'abattre les arbres. Ils font n'importe quoi. Ils ont commencé à couper un tronc d'arbre alors qu'il y avait des gens dedans. C'est très grave. On en appelle à un maximum de monde à appeler le service des expulsions de la préfecture de l'Isère, à appeler le directeur de cabinet du maire, voire le maire de Grenoble, la métro, la communauté d'agglomération de l'agglomération grenobloise. Et nous appelons tous les syndicats des ouvriers qui sont sur le site à inciter à la grève, à se mettre en grève immédiatement. Et nous attendons une mobilisation générale pour qu'il y ait un maximum de monde. Ça va sûrement durer une journée, deux journées, sûrement plusieurs jours. Il faut un maximum de monde à Grenoble, au parc Paul Mistral. Merci, c'est difficile de parler. En tout cas, il est grand temps qu'on se réapproprie nos villes et la démocratie directe. Il y en a marre de leur connerie. Salut.
Voilà, je suis monsieur Marcel Ferrara, le président d'un club de foot à Marseille qui s'appelle l'Union Sportive Baïa. Alors je voudrais pousser un coup de gueule parce que notre stade va disparaître. Alors je vais vous lire un petit message. Alors on sait qu'à Marseille on aime le foot et que l'OM en est la locomotive. Mais il y a une pépinière de footballeurs qui ont les pires difficultés à pratiquer ce sport, tant vénéré faute d'installations sportives. Aussi, c'est avec une farouche volonté et acharnement que je m'emploie depuis 34 ans à aider bénévolement tous les pratiquants, à les emmener sur des terrains parfois très éloignés, à former l'encadrement qui leur est nécessaire. Mais voilà, le terrain que nous avons obtenu dans le centre-ville depuis à peine 3 ans va être sacrifié sur l'autel du profit. Les enfants du béton n'auront plus la possibilité de réaliser leurs rêves par le jeu. Pour des raisons mercantiles, ce terrain va irrémédiablement disparaître et c'est très regrettable à une époque où l'éducation des jeunes fait la une des médias et où la délinquance est à l'ordre du jour. Ne touchez pas à mon stade, c'est ce que vont reprendre d'une voix unanime les quelques 400 utilisateurs du stade Baille-Vertu lors de la manif du 11 février à 16h. Merci.
Oui, c'est encore Nicole à Grenoble, par Paul Mistral. Je sais pas si vous entendez la suite des événements, mais là on entend les tronçonneuses. Voilà, ils commencent à tronçonner le bas, je sais pas ce qu'ils font, je pense pas qu'ils vont tronçonner l'arbre où il y a les gens quand même, mais ils commencent à démolir les maisons du bas du parc Paul Mistral à Grenoble. Il y a les CRS, on peut rien faire, on assiste là impuissant à la démocratie de la ville de Grenoble. Voilà. Bon, il y a l'association SOS Parc Paul Mistral ici, et puis les éco-citoyens qui sont dans les arbres, et tous les citoyens qui sont là pour soutenir. Voilà, merci Daniel. Au revoir.
Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe à Grenoble. Donc on coupe des arbres pour construire un stade. Et à Marseille, en centre-ville, eh bien on supprime un stade. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans notre beau pays. Il faut que je vous redonne des précisions. J'ai été incomplet concernant le site pour soutenir les journalistes de l'information qui sont en grève. Je vous le refais complètement cette fois-ci. www.20six.fr/ et silence radio en un seul mot. OK? Et on va retrouver notre ami Jean-Marie. D'autres messages encore sur le répondeur 01 56 40 37 37.
Je voulais vous dire ceci. Tous les jours, j'entends ou je lis La France d'en bas. Comment un Français a-t-il pu inventer une expression aussi méprisable en voulant faire croire que cette expression était une communication amicale? Merci, continuez.
Bonsoir, je fais partie du collectif VAMOS, Vive l'Action pour une mondialisation des solidarités, qui fait lui-même partie du réseau intergalactique, nombreux prix de Marcos. Et c'est pour ça que nous voulons vous appeler, parce que nous organisons une soirée zapatisante mercredi 11 février de 18h30 à minuit au Goumen Bis, 2 Bis cité Aubry, 20e arrondissement, métro Alexandre Dumas. L'entrée est à 5 euros. Il y aura un concert des Gabounistes et Almas, du reggae salsa, et un débat avec Jeannette Abel du Monde Diplomatique sur les 10 ans de l'insurrection zapatiste au Chiapas. Et le site www.intergalactique.org. Merci.
Je crois me souvenir avoir appris que à Rome, le serviteur de l'État qui avait failli était banni, que ses biens étaient confisqués, que sa femme et ses enfants étaient vendus comme esclaves. Aujourd'hui, en Chiraki, ce même grand serviteur de l'État, reconnu coupable par la justice de la République, est l'invité du 20h de TF1. Bon, c'est une bonne nouvelle pour Madame Juppé. Voilà, je m'appelle Thierry, je suis simple citoyen, et je vote plus souvent que je ne regarde TF1, c'est vous dire si je suis outré.
Salut tout le monde de là-bas, si j'y suis. Ce matin, 9h, j'écoute la radio, France Culture, la revue de presse, et qu'est-ce que j'apprends? Dans notre beau pays français, une femme de Fleury-Méringie détenue, obligée d'accoucher avec des menottes. C'est pas malheureux tout ça, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre tout le monde dehors? Qu'est-ce qu'on attend? Allez, ciao. C'était David.
Je m'étonne de n'avoir pas entendu de message de soutien au juge de Nanterre qui, compte tenu du battage en urne, de se sentir bien isolé, alors qu'il n'en fait que leur travail. Jugé au nom du peuple français. Merci.
Devinette, pour chacun d'entre nous, combien les industriels de la publicité dépensent-ils d'argent chaque année? Eh bien, 230 euros, soit environ 1500 francs. Et encore, en comptant tous les Français de 0 à 100 ans passés. Si on sélectionnait ceux chez qui la pub est susceptible de déclencher un acte d'achat, on dépasserait facilement les 300 euros, par personne. Or, on est gêné de le rappeler ici, tant cela est connu, et tant l'effet de contraste peut sembler facile, 300 euros par personne, c'est ce que, avec quoi vit aujourd'hui 1,2 milliard d'êtres humains. Ce qu'ils ont pour survivre, c'est ce qui est dépensé pour nous séduire et nous fabriquer des besoins et nous inciter à acheter des produits que l'industrie veut absolument écouler. C'est vraiment très intéressant. C'était tiré du livre de Jean-Luc Porquet sur Jacques Ellul, l'homme qui est presque tout prévu, qui est très intéressant, et c'était encore Adrien de Mantes la Jolie, et je vous embrasse. À bientôt.
Je suis un peu inquiet pour Le Pen, quoi, parce que Dominique Perben fait plus fort que lui, Sarkozy fait plus fort que lui aussi, et Raffarin et Fillon, Mattei font plus fort que Le Pen, parce que même les chômeurs français maintenant travaillent non plus d'allocation. Alors comment va-t-il présenter sa campagne? Je suis vraiment inquiet, quoi. Je me demande comment il va faire, ce pauvre Le Pen et cette pauvre Marine Le Pen, parce que là ils ont vraiment débordé sur son programme, quoi. Alors voilà. Allez, au revoir à tous et merci pour les émissions, hein.
Monsieur Mermet, vous avez trop de messages, dites-vous. C'est pour vous le moyen d'éliminer ceux qui vous déplaisent. Il y a d'autres dictateurs que Le Pen. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auter, l'éclipse.
Flight number 2. Arriving from New York. Vous êtes resté combien de temps dans le noir?
Mais 4380 jours environ, à quelques jours près, quoi. 12 ans. 12 ans, je crois que c'est la nuit la plus longue pour moi. On n'est pas en Finlande, mais... 6 mois d'obscurité totale.
C'est de l'obscurité? C'est du noir, c'est quoi? Non,
personnellement, c'est pas du noir pour moi. C'est l'abîme, c'est le néant. C'est pas le gris. Y'a rien. Y'a rien.
Un voyage au bout de la nuit, sauf que c'est pas de la nuit. La nuit, c'est le jour à l'envers. Sauf que là, il y a plus de jour. Évanoui, anéanti, perdu de vue, perdu de vie. Alors, on s'y fait, il s'y est fait, Jean-Marie Dubrulle. Vivre, c'est manquer. Vivre, c'est du manque. Alors, d'autres sens se mettent à pousser, le toucher, l'ouïe, le nez, le goût des choses, malgré tout, quand même. Et voilà que, au bout, il vient nous le dire, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, c'est littéralement inouï, au bout de 4381 jours d'absolue cécité, eh bien, la lumière est revenue. Jean-Marie a recouvré la vue. C'est un phénomène que les scientifiques, ophtalmos, divers et variés, expliquent mal. Ne croyez surtout pas qu'il y a un miracle, n'allez pas vous mettre à espérer n'importe quoi. Bien sûr qu'on trouvera des explications, qu'elles doivent exister quelque part. Mais enfin, ça, Jean-Marie n'est pas très pressé de les connaître, ces explications. Il a recouvré la vue au bout de 12 années, 4381 jours. Et Claire Otter est allée le voir dans un petit pavillon qu'il habite, dans les faubourgs d'Orange, un petit jardinet des voisins peinards, et il nous a raconté hier ces choses extraordinaires, ininventables, comme dans la réalité. C'est la réalité qui est évidemment ininventable. Jean-Marie était électricien avant de perdre la vue, il y a une douzaine d'années. Et donc, il aimait ce métier qui était un métier de la lumière, électricien. Fiat lux que la lumière soit. La lumière l'a abandonné, et puis la lumière lui est revenue, lui a été à nouveau donnée, et c'est cette histoire qu'il nous raconte.
Hai la casa col tetto dipinto di blu, e un giardino fiorito, che cosa vuoi più? Il mattino ti sveglia col gallo e caffè, ed il giorno comincia a vivere con te. Non crucciarti se hai qualche chilo di più, a qualcuno vai bene così come sei. Non crearti problemi, l'amore verrà quando meno l'aspetti, è lui che busserà. Non si piange con la bocca piena, non tenere sempre il cuore in pena. Se sorridi sei più bella, e il resto poi verrà, vedrai che poi verrà.
J'ai perdu la vue totalement, qu'on peut appeler le noir, le 28 septembre 1990. Et j'ai recouvré la vue, parce qu'on dit, c'est pas retrouvé, mais enfin, le 25 mai 2002.
Vous vous souvenez de l'heure?
17h15.
Voilà, 17h15, ce jour-là, Jean-Marie Dubrulle perd la vue, perdu de vie, c'est exactement ça qu'il a commencé à nous raconter hier. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, hier, voilà un résumé en mots et en images visibles.
Je suis dans mon appartement, je suis attablé à ma table ronde, j'écoute un peu les infos. Devant mes yeux apparaissent deux bandes. Machinalement, je passe la main devant les yeux. Je vois plus les bandes. Je retrouve les bandes. Je remets la main. Plus les bandes. J'enlève. Je vois les bandes. 3-4 fois, je mets pétard. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vers ces bandes. Je tends la main. Je me dis, mais c'est de la dentelle. Et après, c'est des rideaux. Je vois le verre, je vois la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Je me penche. Je vois des voitures, je vois une rue pavée. Mais je vois des gens marcher. Je referme la fenêtre, je vais me rasseoir. Là, je m'assois sur le lit, le bord du lit. D'un seul coup, je sens quelque chose sur mon genou. Je regarde. C'était ma chienne qui était assise, puis qui avait mis sa tête. Je la regarde. Je vois ma chienne pour la première fois. Elle, c'était une labrador, mais noire. Alors, je la caresse, puis je fais, oh, mais qu'est-ce que tu es belle! Alors, les qualificatifs, elle en a eu. Je la caressais, je dis, mais tu as des beaux yeux, tout ça. Je voyais vraiment distinctement. Je suis devenu fou. Je dis, mais je voyais quand même dans la salle de bain, il y a une glace. Je cherche après le bouton. Je savais pas où il était, le bouton. Je cherche après le bouton. Ah, une lumière qui s'allume. C'est là que je me suis vu dans la glace. Je ne sais pas trop trouver changé, hein, à part la moustache qui me manquait. Bon.
Donc là, vous avez refait connaissance avec vous?
Et avec moi-même, exactement. Alors là, je me suis retourné, puis en me retournant, il y avait une pendule. C'est là que j'ai vu qu'il était 17h15. Là, je me mets à trembler, les jambes tremblent, je transpire. Ça me tourne. J'ai peur que la vie a basculé. Que j'ai perdu la raison. Puis après, je lui dis, qu'est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va pas repartir comme c'est arrivé? J'ai même pas pensé que j'avais plus ma névrite. J'avais plus de douleur. La première nuit, j'ai pas dormi. Je suis peut-être levé 50 fois. J'ai allumé peut-être 100 fois. Mon chien et son panier étaient à côté. Alors j'avais la lampe de chevet, parce que même un aveugle, il faut toujours qu'il ait une lampe de chevet. Pas pour lui, pour le chien. Le chien, lui, il est pas aveugle, lui. Alors, le temps que j'étais couché, là, cette première nuit, là, alors j'étais hors de moi, j'avais pas pris de somnifère, mais dans le noir. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on est bien dans le noir. C'est vrai que c'est aveuglant au départ.
C'est pas la même nuit?
Ah non, 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 c'est pas pareil, parce que c'est pas une nuit totale. Une nuit ordinaire. C'est pas une nuit totale. C'est pas le noir absolu. Il y a toujours une lumière quelque part. Mais nous, dans notre nuit à nous, en tant qu'aveugles, il n'y a rien. Il n'y a pas une lanterne au loin, il n'y a pas un avion qui passe, tic, tic, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'abîme, je dis c'est l'abîme. Je suis resté peut-être des heures avec la lumière allumée. Le chien devait se dire, mais il va l'éteindre cette lumière ou pas? C'est ce que je pensais. Ce que je pensais beaucoup, puis je lui parlais beaucoup, mon chien. Parce que étant seul, j'étais obligé de parler. Donc, je parlais tout haut. Et c'est là, d'un seul coup, j'ai dit, mais au fait, j'ai pas pris mes somnifères. Et après, j'ai dit, mais j'ai plus la douleur. C'est là que d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais plus la douleur. Et alors là, c'est là que je me suis senti bien. Alors là, je lui ai dit, mais je vois le plafond. Et je ne sens plus de douleur. Le calme le plus complet. C'est comme si, je sais pas, que vous passiez pendant 12 ans de votre vie à côté d'un marteau piqueur. Et que là, d'un seul coup, plus de marteau piqueur. Respirez bien. Le bonheur. Est-ce que ça va durer? Le dimanche matin, j'ai téléphoné à mon ex-femme, à mon garçon et à sa femme. Je fais, est-ce que vous êtes libre ce midi? Oui. Ben, je vous donne rendez-vous, je vous invite au restaurant où je mange habituellement. J'ai pour midi. J'ai fait exprès d'arriver un petit peu en retard, c'est à midi 5. C'est qu'à midi pile, je suis à table. Je suis avec mon chien, mes lunettes. J'ai regardé dans la salle, à ce coup. J'ai vu mon garçon, qui avait changé parce que il était brun, il était blond. C'est la mode. Il se coulait.
Et votre femme?
Et ma femme, oui, effectivement, je n'avais pas trouvé trop changé, à part les lunettes. Elle n'avait pas de lunettes ce sens-là. Je suis venu m'asseoir comme d'habitude, avec mes habitudes, tel endroit, clac, clac, la chaise. Ils se sont levés pour me dire bonjour, bonjour, bonjour. Le chien sous la table, comme d'habitude. Je regarde mon garçon, je lui dis, t'es pas mal en blond comme ça. Il me regarde. Et je lui dis, mais au fait, je dis, c'est une chemisette que je t'ai filée, ça. Oui. Je me retourne vers ma belle-fille. Je lui dis, mais t'es blonde aussi, toi. J'ai dit, maman, oui, t'étais brune. Je dis, mais je vous vois. Je sais pas. Mais j'ai dit, si, c'est possible. Je regarde ma femme qui était là, je fais. Ta robe est pas mal quand même, je dis tout ça. Je fais, oui, mais je vous vois. J'ai dit, depuis hier soir. Ah, ils sont mis à pleurer, là. Le gérant est venu. Il s'est mis à genoux devant moi. À côté, quel bonheur, c'est un miracle. Bon, c'est vrai que ça m'a fait un grand plaisir.
Mais la vie est quand même pas revenue comme avant, quoi. Ces 12 ans-là, on pourra pas les effacer.
Non, on peut pas les effacer, c'est pas possible. J'ai connu des personnes qui ont vécu, disons, 4-5 ans en tant que prisonniers de guerre. Toute leur vie, ils ont parlé de leur captivité. Moi, c'était une captivité différente. Vous êtes en prison, vous voyez votre geôlier. Vous voyez le soleil, il voit la neige. La première neige que j'ai vue, il faisait 12 ans que j'avais pas vu la neige. Et quand il est tombé là, je suis sorti, j'étais là, je regardais la neige, je sais pas que c'est pas possible, que c'est beau. J'ai pris la voiture, je suis monté à la colline pour dominer tout orange. Et je voyais la neige tomber, j'étais comme un enfant. Tous ces souvenirs qui me reviennent en mémoire. Autant ce sont des souvenirs parce que j'avais effacés, parce qu'après, si on pense à ça, après, on broie du noir après. Tout en étant noir, on boit du noir. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'il faut que l'on efface ou qu'on oublie. Parce que sinon, après, on se ressasse ça, puis après, on se dit, ah, c'est vrai, je n'en verrai plus, tout ça. Et puis, c'est mauvais, c'est pas bon. Il faut savoir effacer certaines choses.
J'attendrai.
Pour faire ma vie d'aveugle, tout seul. Et donc, après, j'ai pris mon chien. Je me suis mis à parler, comme je vous parle à vous. Mon chien avait le Chanel numéro 5. Parfois, les gens disaient, oh, son bon Chanel. Ah, alors ça, c'est pas moi, c'est mon chien. Comment ça?
Le chien était parfumé.
C'est mon meilleur ami, le chien. Il vit 24 heures sur 24 avec moi. J'ai pendant 8 ans et demi, il a été avec moi pendant 8 ans et demi.
Alors vous écoutez cette histoire, vous dites mais c'est pas croyable et c'est vrai, c'est absolument vrai. Alors on fait ce qu'on veut cette histoire-là, hein. On fait ce qu'on veut, on voit un miracle, on voit une chose tout à fait singulière, hors du commun, ou bien on voit, moi j'aime bien voir dans cette histoire-là la métaphore du devenir, c'est-à-dire que rien n'est jamais complètement foutu. Autrement dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà comment cet homme nous raconte des choses extraordinaires sur son enfance, la neige qui revient, cette idée d'avoir été en captivité. C'est des mots que nous n'avons jamais entendus dans cette émission, parce que cette expérience évidemment est tout à fait unique. Peut-être que d'autres ont vécu des choses aussi extraordinaires, mais il y a une sorte d'enchantement dans ce qui nous est dit qui en ce moment nous fait du bien.
Alors là, vous vous voyez sur la photo, avec votre barbe, avec votre chien d'aveugle, et vous êtes barbu. Vous vous reconnaissez ?
Oui, parce que je la regarde régulièrement.
Mais c'est un autre homme.
Ah oui, c'est un autre homme. C'est un autre homme. Mais même en ville, j'ai un autre homme. Les gens ne me reconnaissent pas. Je parle différemment. Il y a moins d'agressivité, mais il n'y a plus d'agressivité. Hein, je voulais m'asseoir à une terrasse pour prendre une mentalo, n'importe. Je disais au chien, tu m'as une table, le chien m'a mis une table. Et... C'est occupé, monsieur. C'est arrivé que certains garçons me disent, si c'est pour rester 2 heures à une table tout seul, c'est pas la peine. Hein. Et moi, si je reste 2 heures là, c'est pour écouter ce qui se passe autour de moi. Mmh. J'entends la vie, là. Et une vie. Donc, l'imagination fonctionne.
Qu'est-ce que ça change, le fait de pas voir dans sa perception du monde?
On ne voit pas l'évolution. Bon, parfois, quand j'avais la chance d'avoir une personne avec qui je puisse lier un peu de conversation, je disais, mais vous m'expliquez comment les femmes sont habillées? C'est en 90. Oh là, mais ça a changé. Les femmes, elles ont les cheveux verts, rouges, jaunes. Enfin, c'est vrai que j'étais déçu quand j'ai revu. Ah oui, j'étais très déçu.
Pourquoi?
Par l'habillement. J'étais assis en terrasse, je voyais les femmes. Vous voyez leur nombril. Les femmes en robe ou en jupe, alors là, on peut les compter sur les doigts d'une main.
Qu'est-ce qui vous a frappé le plus quand vous avez revu dans les changements comme ça dans la rue?
Les voitures. Beaucoup d'arrondis. Et les teintes. Beaucoup de métallisés. J'ai reconnu 2 chevaux, 4 ailes. Alors les autres voitures, c'était des voitures inconnues.
En 12 ans, vous n'avez pas fait d'amis?
Non, très peu, très peu, très peu. Pour ne pas rester seul. Pour ne pas rester seul, le midi, j'allais manger en brasserie, en restaurant. Mais moi, je n'étais pas seul. Au moins, pendant 1h30, 2 heures, il y avait quelqu'un, je pouvais parler. Je n'étais pas devant mon assiette, seul. Hein. Non. Donc, je voulais avoir une personne. Et donc, j'ai invité les gens, ou les gens venaient me dire bonjour aussitôt. Je disais, mais qu'est-ce que vous prenez quelque chose pour que les gens puissent rester moins 10 minutes avec moi, me parler un peu.
Oui.
Mais j'essayais de vivre comme je pouvais. Je voyageais, j'allais à Nice, à Toulon. Je passais quelques mois à Toulon, à l'hôtel. Et puis, au moins, j'entendais pas ces voix que je connaissais à Orange, qui une fois me disaient bonjour, puis une fois me disaient pas bonjour. Mais si je les entendais, je savais qu'ils étaient là. J'avais beau leur dire, vous savez, vous êtes à 5 mètres si vous parlez, je sais que vous êtes là. J'ai dit, ça c'est Michel, ça c'est Henri, ça c'est Jacqueline, ça c'est Monique.
Et même au pas, vous les reconnaissiez?
Et les dames surtout. Ce sont les chaussures, les talons.
Talons.
Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai dit, mais je vous ai reconnu, vous êtes passé de tel jour à telle heure.
Ah, oui.
Et comment m'avez reconnu? J'ai pas parlé, j'étais toute seule. Oui, mais vous avez des beaux talons, bien métalliques. Puis sinon, le poids, le pas n'est pas le même. Puis il y a des personnes qui cliquent.
Tout ça, tout ce que vous avez appris, là, vous ne l'avez pas perdu. Maintenant, vous le gardez, cette finesse de perception.
Je le garde, mais je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas. Là, il y a des personnes que je reconnaissais à la voix, mais alors immédiatement, que là, on vient me voir, on vient me dire bonjour. Je regarde la personne. Alors on me dit, mais oh Jean-Marie, mais tu me connais? Alors je fais, oui. Alors je ferme les yeux. Tout de suite, je dis le prénom.
Vous fermez les yeux pour mieux les voir?
Ah oui, parce que je ne peux pas mettre un prénom sur ce visage. C'est sur une voix.
La voix est plus fidèle?
Ah oui.
Parce qu'une voix, ça change moins qu'un visage.
Ah, c'est certain, c'est certain. Bon, là, j'ai pas vu des visages changer, quoi. Le dimanche dernier, j'ai rencontré une personne qui m'a connu il y a 12 ans, même avant que je perde la vue. Et là, elle est venue me dire bonjour. J'étais seul à une table, à un thé dansant. J'étais au bout pour pouvoir mieux regarder les gens. Pour m'en prendre bien les yeux, quoi. Elle est venue, elle me dit, tu es seule? Bon, je regarde autour de moi. Elle dit, mais tu viens avec moi? Je fais, oui, oui, madame. Elle dit, mais tu me connais? Elle dit, putain, à chaque fois que je te parlais dans la rue, t'as utilisé mon prénom. Tu te fous de moi? Parlez-moi un peu, là. Je fais, ah, Christian. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'arrive pas à comprendre. Je reprends mes habitudes de voyant, hein. Oui, c'est que vous laissez tomber un verre, là. Je vais entendre un bruit, je vais regarder. Je sais que c'est un verre. Et quand on voit pas, il y a chose qui est tombée. Essayez de deviner ce que ça peut être. Une fourchette, une cuillère, un couteau. T'as pas le même bruit? Est-ce que c'est une tasse? Est-ce que c'est une sous-tasse?
Le regard est paresseux, rend paresseux.
Ah oui, oui, mais c'est vrai que... Mais il suffit de se retourner et puis toc, d'être enseigné tout de suite. Mmh. Et que là, non, il faut deviner, là. Deviner, puis après imaginer. S'il y a quelque chose, il faut imaginer. Et l'imagination, c'est beau parce qu'on peut le faire à sa façon. Moi, pendant des heures, ça.
Ça, c'est une musique que vous aimez?
Ah oui.
Ça, c'est quoi, ça?
C'est une marche.
Une marche?
Une marche.
Ça se danse comment, ça?
Un peu... Pas tout à fait comme un passo doble. Mais oh, on peut faire un peu, on peut faire un petit peu parfois un petit peu en valse, un petit peu marcher de droite à gauche, un peu n'importe comment. Ouais. Tout en étant noyant, je dansais. Et bon, j'avais fait passer le mot, dire que j'aimais bien danser. Il fallait qu'on vienne me chercher naturellement, parce que là, pour aller chercher les dames, ça aurait été difficile.
Donc une dame venait vous chercher?
Une dame venait me chercher. Moi, je disais surtout. Faites attention que l'on ne tombe pas de la scène, parce que moi je peux pas vous guider. Je peux danser à l'endroit, à l'envers. Je dis, mais par contre, c'est à vous un peu de me diriger. Oui. On se met à danser, je me suis arrêté. Je fais, bon, il faut s'arrêter. Je fais, pourquoi il y a quelque chose qui va pas? Je fais, non, arrêtez de trembler. N'ayez pas peur. Je vais pas vous mordre. Je suis pas méchant. Arrêtez de trembler. Elle avait peur de faire mal. Puis c'est la première fois qu'elle a invité un homme, déjà. Elle dit, ça se fait pas.
Et un homme aveugle.
Un homme aveugle. Après, on a discuté un petit peu. Le lendemain, on s'est revus au parc. Elle dit, moi, je vis seul. Elle dit, si vous voulez, je peux bien passer une heure ou deux au parc avec vous, tout ça. Alors, on parlait de choses et d'autres, son mari, moi, mon travail, ma vie, quoi. On n'a pas arrêté que de parler. Mmh. Vraiment, on s'entend impeccable.
Vous êtes fait une amie?
Ah oui, c'est une amie. C'est une amie, effectivement.
Et puis, quand on ne voit pas une dame mais qu'on danse avec elle, on peut tout imaginer.
Quand je lui prends la taille, déjà. Dimanche dernier, pourtant là, je voyais, j'ai pris une dame. Ça m'a fait drôle parce que j'avais l'impression que je la serrais contre moi. Je peux pas laisser passer ça.
Donc maintenant, vous allez inviter toutes les dames qui vous ont fait danser pendant 12 ans?
Ah oui, ah oui. C'est le cœur, moi, que je regarde. C'est tout. Elles m'ont fait un immense plaisir à venir me chercher. C'était pas obligé. Donc ben là, maintenant, c'est à moi de leur faire plaisir. Mais c'est le contact. C'est le toucher, c'est le contact. De déjà sentir une main, déjà. Il y a déjà la main. Que là, il n'y a pas d'autre, il y a la main. Il y a la personne qui vous prend la main. Donc, et c'est vrai que nous, au toucher, on ressent quelque chose. On ressent quelque chose quand même. On sent une chaleur, une pression. Peut-être que je me trompe. Mais c'est rare. C'est rare.
Il y a le toucher de la peau, mais il y a le vêtement aussi de l'autre.
Il y a le vêtement, c'est vrai, il y a parfois, j'utilise. On se dit que votre vêtement glisse comme ça, j'ai la main qui croit que je touche votre peau, là. C'était presque le dos que je vais toucher. Je suis pas une personne à attraper. Moi, je tiens la personne, mais c'est léger. Moi, je danse comme ça. Que ce soit un tango, un passo doble ou n'importe quoi, c'est gentiment.
La distance.
La distance. Il y a comme ça que je sais vraiment danser correctement. Ah, j'aime la valse, j'aime le tango, le passo doble, la rumba, la java, enfin tout. Je vois les musiciens, je les vois les musiciens, c'est un bonheur pour moi.
Mais Jean-Marie, vous avez vécu 12 ans sans femme?
Eh oui. Et j'ai toujours pas connu de femme, là. J'attends toujours. Et c'est vrai que c'est une angoisse. C'est une angoisse de savoir comment je vais réagir, comment, je sais pas.
Alors c'est pour ça que vous allez au bal pour danser?
En dansant, comme je me dis, j'ai dit, bon, ben, peut-être qu'un jour, il y aura un regard. Le regard d'une femme, moi, mon regard, peut-être que... Parce que quand on est aveugle, il n'y a plus de regard. Même si je plais à une dame, et si je plaisais à une dame en tant qu'aveugle, je pouvais rien lui rendre. Donc ça, c'est difficile. Puis même si une dame s'est approchée, m'aurait dit, mais vous me plaisez ou quoi que ce soit, mais comment est la femme? Moi, il faut être deux. Il faut être deux.
Donc vous êtes passé de femme?
Oui, ben, je me suis passé de femme, effectivement. J'ai demandé au médecin, j'ai dit, mais si un jour je retrouve une femme, il dit, vous inquiétez pas, c'est quand on a monté, on a fait du vélo une fois, on doit savoir en faire. Je fais, oh, mais j'espère. Je croise les doigts, et à chaque bol que je rentre, je fais, peut-être que je vais peut-être ressortir avec un visage, que je vais peut-être pouvoir faire un rêve la nuit. Peut-être un jour viendra. Enfin, faut pas attendre quand même trop longtemps, parce que je viens d'avoir mes 62 ans.
Alors voilà, c'est, oui, c'est comme le vélo. C'est extraordinaire ce que nous raconte Jean-Marie Dubrulle. Je me dis que il y a des gens qu'on rencontre comme ça qui ont une force d'expression, qui choisissent leurs mots, qui savent faire jaillir des images avec une, c'est ça, une maîtrise de l'expression qui vient peut-être de ça, qui vient peut-être de cette longue nuit qui n'en était pas une, cette espèce de néant, enfin cette cécité qu'il a traversée, qui l'a peut-être obligé à peu à peu à maîtriser comme ça le langage. En tout cas, il y a des choses extraordinaires qui sont dites par cet homme. Si vous arrivez, je vous rappelle, voilà, il a recouvré la vue au bout de 4381 jours de cécité, 12 ans. Ça s'est passé ici, chez nous, en France. C'est une histoire tout à fait singulière, je le répète, c'est pas un miracle. C'est pas la peine d'aller à Lourdes. Non, c'est un phénomène que, d'ailleurs, les ophtalmos n'expliquent pas très clairement, mais c'est le cas de le dire, d'ailleurs, très clairement. C'est extraordinaire, d'ailleurs, hein, quand il s'agit de la vue, le nombre de mots, d'expressions qui sont dans le vocabulaire, dans le langage, à longueur de temps et à perte de vue.
À l'école des aveugles, il y avait des jeunes filles qui avaient des prothèses. C'est des jeunes filles aveugles de naissance. Elles me disaient, Jean-Marie, mais t'as déjà touché un œil, une prothèse. Non. Elles me disaient, bon, ben, approche-toi là. Je fais oui. Tiens, tu me donnes ta main. Bon, on va trouver avec un œil dans la main. C'est vrai, c'est comme un caillou, hein. C'est comme une bille. C'est pas rond, hein, parce que il faut que ça prenne de chaque côté. Bon, c'est pas visqueux. C'est pas dur non plus. C'est pas comme du bois, hein. Je fais bon. Elle dit maintenant, il va falloir que je la remette, que je la nettoie, que je la remette. Je fais ça te fait pas drôle, je dis de savoir que. Bah, elle fait, non, j'ai toujours eu ces prothèses, elle dit. Et elle m'a dit, mais t'as jamais touché à l'emplacement de l'œil? Je fais, non, jamais. Elle dit, mais donne-moi ta main. J'ai mis un doigt. Je vais rentrer peut-être 2 centimètres mon doigt à l'intérieur. Bon, j'ai pas voulu aller plus loin, parce que je sais qu'après, c'est le cerveau. L'imagination, vous savez, c'est fébrile, et puis ça va vite. Rien, c'est le vide, mais j'ai pas voulu aller plus loin parce que j'en ai peur. Mais ça fait une drôle de sensation. Mais je sais qu'à l'institut, il y avait 2 infirmières, mais sur les 2, il y en avait une qui pouvait pas le faire. J'ai eu un collègue ici, non-voyant, il a fait l'ablation des yeux, mais lui, il a pas voulu de prothèse, il s'est fait coudre ses paupières. Oui, carrément.
Coudre ses paupières.
Coudre ses paupières. Donc comme ça, pas de prothèse. Il m'a fait toucher ses yeux, mais alors c'est comme si on touchait une cicatrice, quoi.
Vous avez, pendant toutes ces années, vous avez continué à aller à la messe?
Ah oui, pendant 12 ans. J'ai demandé pourquoi. Pourquoi j'avais perdu la vue? Pourquoi moi? Mais j'ai pas eu de réponse.
Mais ça vous a pas fait douter, ça?
Non. Ah non, non, pas du tout. Je n'étais pas seul. Dans l'église, non, j'étais pas seul. Je savais qu'il y avait autre chose qui était avec moi. C'était un réconfort. Un réconfort sans histoire, sans obligation. Pas dire je reviendrai demain, t'es resté qu'une demi-heure, t'es resté qu'un quart d'heure là, non, c'était un réconfort et un confort en même temps. Parce que je me sentais bien. Je vais tous les matins quand même passer 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes à l'église, et puis bon, ben, je repense à tout mon calvaire que j'ai passé pendant ces 12 années. Et puis ben, je parle intérieurement, je sais que je suis pas seul, que l'on m'écoute. Et je pense qu'on m'a écouté pendant 12 années. Hein, pourquoi on a vu mes parties, pourquoi elle est revenue, je ne sais pas mieux.
Mais vous n'êtes pas dit, c'est un miracle ce qui m'arrive.
Moi je dis personnellement, pour moi, c'est miraculeux. Mais de là à dire que c'est un miracle, c'est autre chose. Moi je dis que c'est miraculeux pour moi, mais j'ai jamais dit que c'est un miracle.
Lettre A, point 1. Lettre B, point 1 et 2. Lettre C, point 1 et 4.
Alors voilà, cette cassette, et ben, il peut la donner maintenant, monsieur Jean-Marie Dubrulle, cette cassette qu'il a écouté pour arriver à apprendre le braille, pour arriver à lire en braille, c'est toute une éducation, c'est toute une histoire. Et ben voilà, maintenant c'est qu'un souvenir, le souvenir de ces 12 années de cécité. Peut-être qu'un jour, on est en cours d'ailleurs, il y a des essais de prothèses avec des systèmes de caméras en guise d'œil, avec une antenne fixée sur je ne sais où dans le crâne, qui permettra de connecter une caméra vidéo à au nerf optique, et peut-être qu'un jour les aveugles verront, j'en sais rien du tout, c'est évidemment lointain. Mais alors, à ce moment-là, ce jour-là, ce sera pas un seul jour, bien évidemment, et bien ce que vous entendez là sera un document absolument inouï.
Ben, le chien, disons, fait le bonheur d'un autre aveugle. Quand un aveugle reçoit un chien, ces chiens sont financés par des privés, par des dons. L'État ne donne pas un centime. Ces chiens appartiennent à l'école. Nous ne sommes que des utilisateurs du chien. Puis c'est vrai qu'au bout de 2 mois, juin, je pouvais plus mettre le harnais au chien. Je la prenais, mais elle te la laisse. Je la regardais, et puis je me disais, putain, je vais dire qu'il y a des gens qui pleurent pour avoir un chien. Il faut attendre des années. Et moi, je sais ce que c'est que d'avoir un chien. Je disais au chien, on va à l'église. Le chien, il s'est arrêté, j'étais à l'église. Au banc, à l'endroit. J'ai dit, on sort, le chien me faisait sortir. Moi, tu m'amènes à la poste. Et tu m'amènes au restaurant. Bon, tu m'amènes au restaurant. Je fais des gens marrés. Si tu la conserves, c'est égoïste. J'étais la raccompagner à l'école des chiens guides. Ouais. Ça a été dur.
Jour-là, vous avez dû verser une larme quand même, non?
Oh, plus d'une, ça a été dur. Quand je voyais un chien noir dehors,
Ces 12 années, ça a été comme un grand voyage. Un voyage au très très long cours.
Oui, mais un voyage, mais à l'extérieur de mon pays. À l'extérieur de mon pays, à part la langue que j'entendais toujours parler français, quoi.
Maintenant, Jean-Marie, vous rattrapez le temps.
C'est pas facile de le rattraper, parce que c'est vrai que je sais pas par quel bout commencer. Si une dame peut m'écouter et que nos yeux se rencontrent et que ça fasse des étincelles.
Vous êtes prêt pour un nouveau voyage?
Ah oui, effectivement, oui. De faire un bon bout de chemin. Un bon bout de chemin. Essayer de donner ces 12 années de tendresse que j'ai pas pu donner. Que j'ai pas reçu non plus. Rattraper ce que je n'ai pas pu avoir, ce que je n'ai pas pu donner. Je prends plus plaisir à donner qu'à recevoir. Ça me fait plaisir de faire plaisir. On se refait pas. Je dors avec les volets ouverts. Ah, je ne ferme plus mes volets le soir. C'est fini là. C'est terminé. Donc je sais que même si j'ouvre les yeux la nuit, si je me réveille, je vois la fenêtre. Et je regarde le ciel, quoi. Et je ne suis plus dans le noir. Et là, il y a un volet sur deux qui celui-ci, il n'est jamais fermé. Ah oui, parce que je sais quelque part, et tout se couperait, je crois que... Parce que c'est la peur, c'est l'impréhension, l'angoisse. C'est de l'angoisse, hein, un petit peu, mais ça dure pas longtemps. Je me lève, disons, pour ainsi dire, en même temps que le soleil, quoi. Et je me couche après le soleil. Ouais, bien sûr que le soleil il soit couché.
J'arrive le matin au bistrot du coin. Je m'installe sagement, l'âme sans tourment. J'ai plein de trucs à faire qui pourraient me rendre fier. Je commande un café pour me réveiller. Je brûle une cigarette, mais bientôt j'arrête. Je me frotte les mains, c'est maintenant, demain. Je vais pouvoir me construire un bel avenir. Mais là, je sais pas ce qui se passe, comme on l'inverse. Son petit frère, un pour la route, un pour retour. M'accroche au bar, c'est là qu'on se marre. Je parle d'amour à des gens sourds. Arrive le soir, je peux plus boire, me suis montré. Encore raté, j'y veux rien. C'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y veux rien, c'est mon côté punk. C'est la vie en vie, ce qui se fout, mon avis. Pourtant dans mon ventre aujourd'hui, je rends compte. J'ai la tête en fleurs, elle me voit, elle meurt. D'amour va sans dire, pourrais-je mourir? On s'accroche les yeux, puis on fait des vœux. Nous deux, ça sera grand, moi jamais je mens. Confonds-toi en moi, je suis fondu de toi. Mon petit canari, je t'emmène à Paris. Mais là je sais pas ce qui se passe, car sous l'arbre, peut-être que je m'en fous, pourquoi qu'il y a même, je veux pas la peine, elle est trop bonne, elle doit être conne, j'ouvre la portière, puis au derrière, ma petite amie est embrouillée, qu'est-ce que j'ai fait? J'y veux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, rien, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vie, ce qui se fout, mon avis, je suis toujours à faire une chose, le contraire. Je sais pas ce qui se passe, je dois être à la masse. Bon vouloir se meurt, monsieur le docteur. Et vous allez m'aider, j'aurais vous payé. On veut qu'une seule chose, c'est que ma tête se repose. Je suis plutôt dans le fond, un gentil garçon. Moi, je veux y parvenir à mon bel avenir. Mais là, je sais pas ce qui se passe, ça sert à rien, dit le médecin, c'est chez vous, là, moi, je sais tant, bah, y'a des balles, ça peut faire mal, la croix, ça te fait qu'en fait, une tête, la main à terre, ça gueule à terre, y'est mal barré. Je le dirai. J'y peux rien, c'est mon côté punk.
Loïc Lantoine, il s'appelle ce garçon. Vous allez en vouloir, alors je vous le dis tout de suite, Loïc Lantoine. Merci à Jean-Marie Dubrulle. C'était un reportage de Claire Auter. Technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. La musique, c'est Antoine... Non, c'est Coy Nguyen, la musique. La réalisation, c'est Antoine Chao. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. Et c'est Anne de Giaferi qui nous assiste. Je vous rappelle le numéro pour joindre et pour être informé sur la grève des journalistes de l'information, www.206cix.fr/silence radio, tout attaché. Il est 58:30.